Où va votre route, vous qui nous écoutez? Dites-le nous, 01 56 40 68 68, c'est le répondeur de France Inter. Vous pouvez y laisser un message quand vous voulez et on les diffuse ensuite à l'antenne. Faites comme Céline aujourd'hui.
Je suis allée au Bénin et je me rappelle très bien quand on a visité, alors il y a toute une forêt qui est la forêt sacrée en fait, et quand tu rentres dans cette forêt, donc tu vois des arbres qui sont incroyables. Et alors c'est très drôle parce qu'ils ont placé dans cette forêt des sculptures contemporaines qui représentent les principaux dieux vaudous qui sont comme ça dispatchés au milieu des arbres et qui t'invitent juste à la balade et à la connaissance en fait. Parce que moi je connais pas du tout la religion vaudou et j'ai complètement découvert ça à travers cette forêt.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage dans la mode des années 70 à nos jours. Un voyage au goût de liberté. Le fait de faire des choix, de suivre ses envies pour potentiellement en faire d'autres ensuite, des choix. Notre invitée est une des stylistes les plus connues au monde. Sa marque, son prénom et la première lettre du nom de famille de son premier mari se vend de New York à Tokyo. Notre invitée est une passionnée d'art. Elle a d'ailleurs une galerie à Paris, la Fab, qui rouvrira le 1er septembre, où des artistes sont exposés, en ce moment des artistes de moins de 30 ans. Elle a aussi réalisé un film, en 2014, « Je m'appelle M ». Notre invitée touche à tout, se nourrit de tout, et je suis ravie de passer cette prochaine heure en sa compagnie. Elle a choisi de nous plonger, pour débuter, dans l'univers de Robinson Crusoe.
Élodie Font, chacun sa route. Sur France Inter.
Durant mon absence, j'avais craint que, pour le moins, mes provisions ne fussent dévorées. Mais à mon retour, je ne trouvais aucune trace de visiteur, seulement un animal semblable à un chat sauvage s'était assis sur un des coffres. Lorsque je m'avançais vers lui, il s'enfuit à une petite distance, puis s'arrêta tout court. Et s'asseyant, très calme et très insouciant, il me regarda en face, comme s'il eût envie de lier connaissance avec moi. Je le mis en joue, mais comme il ne savait pas ce que cela signifiait, il y resta parfaitement indifférent, sans même faire mine de s'en aller. Sur ce, je lui jetai un morceau de biscuit, bien que certes je n'en fusse pas fort prodigue, car ma provision n'était pas considérable. N'importe, je lui donnai ce morceau, et il s'en approcha, le flaira, le mangea, puis me regarda d'un air d'aise pour en avoir encore. Mais je le remerciai, ne pouvant lui en offrir davantage. Alors il se retira.
Bonjour Agnès B.
Bonjour.
Vous avez choisi un extrait de Robinson Crusoe. Pourquoi avoir choisi ce livre et cet extrait-là?
Ce livre, parce que c'est un livre que j'ai adoré quand je l'ai lu, petit, dans une édition d'ailleurs ancienne, de ma famille. Voilà. Et Robinson Crusoe, c'est pour moi... Il fait plein de choses. Il se débrouille. C'est la débrouille. Et puis, par ces temps d'écologie, finalement, il vit une écologie, il rêve d'une écologie de cette île, alors que Daniel Defoe l'a écrit dans son lit, alors qu'il était âgé, ce livre. Et donc, c'est un livre d'imagination incroyable et de débrouille et de rencontre. Donc, cette rencontre, parce que le voyage, pour moi, c'est les rencontres.
Oui.
Puis sont des rencontres après sans lendemain, ils sont des gens qui restent gravés. Moi, j'ai des gens comme ça que j'ai rencontrés avec qui ça se passe, je sais pas comment, par le regard, par et on sent qu'on va être en terrain d'entente. Et la rencontre là, c'est avec ce chat sauvage. Et j'aime beaucoup la façon dont il décrit cette rencontre.
Et ça vous arrive aussi d'avoir ce genre de rencontre avec des animaux?
Moi, c'est plutôt les chiens. Je suis pas du tout les chats, moi. J'aime pas les chats. Ma grand-mère m'a trop mis des chats dans les mains, tout petits bébés, tout ça. Ça ressemblait aux souris, les chats siamois, blancs. Bah. Et ça m'a dégoûté des chats. Prends le chat, mets-le par terre, et je prenais par le ventre et je le lâchais d'un mètre de haut, quoi. Les chiens.
Et les rencontres avec les hommes, les femmes, vous sentez les gens? Vous sentez gens avec qui ça va se passer?
Oui, sûrement. Bien sûr. Il y a... pour ça que c'est un truc avec le regard où on sent, où on sait où on va, quelque part, je trouve. Il y a des gens qui peuvent vous faire peur, mais même ceux-là, je peux arriver quelquefois à retrouver autre chose. Et j'aime bien tout ça. J'aime beaucoup les rencontres, en fait. Puis je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, grâce à la Galerie du Jour et à mon goût pour l'art aussi, bien sûr. Donc les rencontres, c'est le voyage, c'est voilà un petit guide au Maroc il y a 25 ans qui est resté dans ma tête parce que il me manque, alors que j'ai passé quelques jours guidé par lui. Voilà, c'est au Japon des gens avec qui j'ai pu échanger. Parce qu'on a des amis partout et on est les mêmes partout et on est tous différents, mais on est les mêmes partout, je pense.
Ah oui, vous croyez?
Ouais, j'ai une amie chilienne, Carmen Castillo, qui était à l'autre bout du monde et...
C'est sympa d'avoir Carmen Castillo comme amie chilienne.
Ah oui, on l'a. Ouais, elle est venue chez nous tout de suite après l'assaut où ce Miguel Enriquez a été tué au cours de l'assaut, voilà. Après l'arrivée de Pinochet.
Dans les années 70. Voilà.
Donc on s'est occupé de Carmen, elle s'est occupée de nous aussi, je sais pas. Elle était vendeuse rue du jour avec nous pendant quelques mois. Et oui. C'était génial.
En fouillant un peu dans votre vie, dans le voyage de votre vie, Agnès B., ça m'a frappé effectivement le nombre de gens que vous aviez dû rencontrer au cours de votre vie. Et j'ai fait le parallèle avec Olivier Rousteing qui est venu ici de la Maison Balmain, qui est venu le 13 juillet précisément pour ceux qui veulent réécouter un podcast, et qui disait lui que il rencontrait tellement de gens qu'il n'arrivait à faire confiance à personne et qu'il n'arrivait pas du tout à lâcher prise. Et vous, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse.
Exactement. Mais c'est vrai, moi je compte toujours sur le bon côté des gens. Ouais. J'y crois. Ouais.
Peu importe où vous êtes.
Oui. Au contraire, même à Moscou et tout, je sais pas, j'ai vu des gens se tenir par la main. J'ai fait des photos d'ailleurs en marché aux oiseaux à Moscou, j'étais là-bas en 92. Et c'était magnifique, j'ai adoré les gens, j'ai fait que des photos des gens à Moscou.
On va parler de la photo, Agnès B. J'ai lu une histoire, vous allez me dire si c'est vrai, que vous étiez au Japon, justement. On peut y aller d'ailleurs au Japon. Et vous êtes en voiture, vous voyez un jeune homme qui fait du street art, qui fait du graph, et vous arrêtez la voiture, vous sortez de la voiture et racontez-nous.
Oui. Alors... Faut que je retrouve son nom déjà, et là j'étais partie au Maroc.
Attendez, je l'ai.
Suzuki.
Oui, exactement, Suzuki. Oui, Suzuki. Je l'avais quelque part, mais vous le retrouvez avant moi.
C'est un nom de poisson d'ailleurs, ça veut dire un nom de poisson. Le bar, je crois.
Ah,
Suzuki. Alors lui, il peignait un long mur, ce qui était assez rare à Tokyo, comme ça, dans un virage. Moi j'ai plein de films dans ma tête. Toutes les histoires, j'ai le film dans ma tête. J'adore.
Vous avez de la chance.
J'adore, oui.
Vous ne vous ennuyez jamais?
Ah non, je m'ennuie jamais.
Alors racontez-nous ce film-là.
Donc je descends du taxi, je lui dis, c'est trop beau ce que vous faites. Je lui dis en anglais, je vois qu'il comprend un peu. Je fais les gestes et tout. Et puis je lui donne mon nom. Et puis il y avait le défilé deux jours après. Je lui ai demandé de venir peindre. On avait mis un grand mur blanc. Et il a fait, après le défilé, une peinture sur le mur en direct. Et on est toujours très amis. Et je l'aime énormément. Je l'ai revu à New York aussi, c'est quelqu'un de génial. Il a fait un mur de 50 mètres de long au Japon, là, récemment.
Mais j'adore l'idée qu'on peut devenir ami avec quelqu'un juste en arrêtant une voiture et en disant « j'aime bien ce que vous faites ».
Bah si, c'est comme ça, ça peut être comme ça, bien sûr. Ça peut être comme ça avec des musiciens aussi, ça peut être comme ça avec d'autres gens.
Et vous rencontrez les pays comme vous rencontrez les gens ?
Bah oui, tout à fait.
Comment vous rencontrez un pays ?
Puis je suis Sagittaire, alors j'aime bien. C'est mon signe du zodiaque. Bon, on dit qu'on va vers l'avant, on suit la flèche, ou on avance sur le cheval.
Fin novembre ou décembre?
Voilà, 26 novembre.
On va revenir en arrière. Vous êtes passionnée par l'art depuis l'enfance, Agnès B. Est-ce que c'est un voyage en soi, puisque là on parlait de street art, mais vous aimez plein d'arts différents, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit.
Oui.
Est-ce que c'est votre voyage à vous de découvrir le monde par l'art?
Mais ça a été comme ça, puisque j'étais versaillaise, j'étais élevée dans le parc, et mon père était avocat à Versailles, et on descendait dans le midi en voiture. J'étais toujours à l'avant, je ne dormais jamais, j'avais mes sœurs à l'arrière. Et on s'arrêtait pour voir Saint-Philibert de Tournus, ou la Pietà d'Avignon, on s'arrêtait dans un petit musée de province, comme ça. Mon père, le voyage et la découverte et l'art ont été mêlés depuis ma toute petite enfance. Vraiment. Et être élevé dans le parc de Versailles, c'est quand même tous les jours, j'ai passé du temps, enfant, depuis que je suis née. Donc ça marque.
Et vous vous souvenez de votre premier coup au cœur artistique?
Oh, je crois que ça a été le printemps de Botticelli, que j'ai découvert, j'avais 12 ans. en voyage avec mon père, aux offices. Et ça a été... C'est tellement beau, le printemps. Cette femme, ses cheveux, cette robe, les fleurs. J'ai refait un imprimé une fois, d'ailleurs, avec les fleurs du printemps de Botticelli, pour une robe. Mais oui, je crois que c'est ça, même avant la Joconde. Et, vous et avez... l'homme au gant de Titien, que j'adorais. J'étais amoureuse de lui quand j'avais 13 ans.
Il ressemble à quoi ?
Très, très beau. Il est... C'est un... Le Titien, c'est un homme très, très beau, à les cheveux longs, bruns, une dentelle, et le gant, et un grand col en dentelle. Et je trouvais tellement beau.
C'est pas simple d'être amoureuse.
La barre est haute, hein.
Oui. Et après, c'est moins simple, effectivement. Et est-ce que l'art, au fur et à mesure de votre voyage en lui, est-ce qu'il vous a appris des choses de vous ?
D'abord, l'art et la foi, comment dire, je suis mystique de l'art, mais je suis mystique aussi, alors ça se rejoint complètement. Dans les églises, en tout ça, il y a la beauté de certaines églises. Même le Mont-Saint-Michel ou Saint-Philibert de Tournu, qui est une église dont je vous parlais tout à l'heure, qui est tout en pierre blanche avec des briques roses, dans une église romane très haute et magnifique. C'est un endroit qui vous porte, donc qui vous emporte. Mais la nature aussi, ça me fait le même effet, en fait. La beauté de la nature.
Vous avez de la chance.
Tout ça se mélange, oui.
Vous êtes en tout cas très réceptive.
Ah oui, très.
Et aux gens.
À la beauté, ouais. Puis, je sais pas, c'est ma nature.
D'être réceptive ?
Oui, je crois.
Et c'est une chance ou parfois c'est d'être une épouse ?
Ça veut dire qu'on est sensible aussi, ça veut dire qu'on peut souffrir du malheur des autres, ça veut dire tout ça aussi, évidemment. C'est les deux.
Ouais.
C'est la joie et la douleur, ça se mélange quelquefois. Pas trop souvent, heureusement.
Et quand vous étiez enfant, vous aviez envie de voyager où ? Vous aviez envie de partir ?
Je voulais partir faire le tour du monde et gagner ma vie dans les pays en faisant la vaisselle ou je sais pas quoi. J'étais très presque hippie avant l'heure, quoi. Oui, je voyais ça comme ça. Puis je me suis mariée à 17 ans avec Christian Bourgois. Les jumeaux à 19 ans.
Le B de
Agnès
B.
Les jumeaux pour mes 19 ans. Et donc, fini le côté roots. Je voulais être groupie aussi.
C'est vrai ?
Oui.
Comment vous auriez fait ?
Je voulais être groupie avant d'avoir les jumeaux.
Groupie de qui ?
Je trouvais ça bien. Non, mais même quand je les ai eus, en fait. Je voulais être groupie des Stones, mais avec les jumeaux, c'était pas commode. Mais je les ai quand même rencontrés. C'était marrant, à Paris. Je les ai rencontrés.
C'est vrai que des jumeaux à 19 ans, ça change un peu le rapport au travail, j'allais dire. Oui. Pas forcément au travail, mais au voyage.
Ah oui, c'est sûr. Puis en plus, j'ai quitté Christian, ils n'avaient pas 2 ans. Donc là, c'était encore plus...
Rock'n'roll.
Rock'n'roll, mais j'aime bien le rock'n'roll.
Ouais, c'est une autre manière d'être groupie.
Oui. Oui, tout à fait.
Agnès B passe 7 heures avec nous jusqu'à 15 heures sur France Inter. Le temps d'écouter ensemble et de nous envelopper avec leur musique Call the Police, les LCD Sound System. We'll be right back. écoutez France Inter, chacun sa route, jusqu'à 15h avec la styliste Agnès B. Je sais que vous aimez bien ce mot, styliste.
Oui, parce qu'on peut tout styliser, c'est ce que je dis toujours. J'aime pas le mot créateur, j'ai trouvé ça ridicule quand ils ont commencé à appeler les gens de mode les créateurs. Ça
ne
m'allait pas du tout. Bah parce que créateur, c'est... Alors tout le monde est créateur, Michel-Ange est créateur. Alors, c'est vrai,
on crée tous quelque chose.
Bien. Oui, oui, je trouve que styliste, c'est mieux.
Vous voyagez énormément, et depuis des décennies,
autant que
pour votre travail, j'allais dire.
Mais même pas trop.
Ah, même pas pour votre
pas
travail
tant que ça, finalement.
Mais je suis J'avais l'impression que vous étiez allé dans beaucoup de pays sur la planète.
Oui, mais pour d'autres raisons, plutôt pour... parce que sinon, je suis très attachée à mon bureau rue de Rivoli, d'abord, et puis à la République, maintenant. Ça a été longtemps rue de Rivoli, et maintenant, c'est la République, depuis 20 ans, au Canal Saint-Martin. Quartier super, une maison que j'adore.
Et vous partez dans quelles conditions, alors? Vous partez à quel moment?
Ben, je pars peut-être un peu moins en ce moment, parce que j'ai plus de travail que jamais, avec la FAB, avec tout ça, mais je fais des choses qui me passionnent. Bon, le confinement a fait que je suis restée 3 mois à la maison, comme tout le monde, mais pas à plaindre, parce que j'ai un jardin. Les voyages, bon, si, Rome, Florence, j'y suis allée encore l'année dernière.
Le Japon, par exemple, c'était quand la dernière fois?
Le Japon, c'est un long voyage. Et une fois que je suis là-bas, je suis enfermée dans l'hôtel à faire des interviews. Alors, c'est bien, mais c'est pas un pays que je connaisse beaucoup, finalement.
Parce que vous êtes une rock star au Japon.
Mais oui, trop.
On parlait de rock'n'roll et vous êtes une rock star.
Ils sont un peu trop, peut-être, mais c'est très gentil. Mais c'est, ça m'étonne. On me prend les cheveux, on m'embrasse sur la bouche. Oui. Ils me font peur, quelquefois. Non, mais...
Ah
c'est
oui.
Beaucoup d'amour. Voilà.
Oui, c'est beaucoup, beaucoup.
Oui, beaucoup.
C'est même un peu du... Okay.
Ouais.
C'est un peu stressant.
Et même les très jeunes, maintenant, ils aiment porter cette marque. On ne fait pas de publicité, on est écologique, on a Tara. Ils aiment comme on est. Et c'est pour ça qu'ils portent la casquette Agnès B. C'est qu'il y a un renouveau, encore une fois, de fans d'Agnès B. Et ça fait quand même très longtemps qu'on est là-bas, hein, depuis 84.
Ouais, ça commence à...
Ça fait longtemps.
Bah, 35 ans.
Quand Jean-René de Fleurieu,
presque 36.
Mon deuxième mari a décidé qu'on ouvrirait au Japon. C'est pareil, une boutique, ou faire pour 10 boutiques. Ou bon. Ben non, c'est pas du tout pareil.
J'ai vu d'ailleurs que vous étiez assez réticente à l'origine, que vous étiez bien, vous.
J'étais déjà styliste, hein. J'avais déjà beaucoup de parutions, parce qu'à ce moment-là, les parutions, c'était vraiment sur ce qu'on faisait, ce qui était bien. Il y avait des journalistes de mode formidables. Donc, elle, Marie-Claire, tout ça, les journaux m'ont soutenue. C'est comme ça que j'ai pu faire la rue du jour et que tout le monde est venu aux 3 rues du jour tout d'un coup. Quand j'ai ouvert cette boutique, ça a été formidable, c'était dément, ça a marché. On a ouvert avec Jean-René de Fleurieu, donc, et le père de mes filles. Et il y avait du passage, il y avait Gilles Deleuze, il y avait Félix Guattari, il y avait plein de gens qui passaient, il y avait Elie Medeiros, il y avait dans les débuts 80. C'était un endroit où les gens passaient, dire bonjour aussi.
Et ça, c'est important pour vous, un lieu?
Mais oui, parce que j'ai l'impression que ça continue d'être comme ça, parce que là, après le confinement, les clients sont revenus, juste dire bonjour aux vendeuses, acheter un petit truc, mais être là avec nous, ça leur a fait très plaisir dans les boutiques.
Et vous les recrutez comme ça, les gens qui travaillent avec vous? Vous les recrutez?
Il y a un état d'esprit de la maison qui... Et de temps en temps, il y a peut-être un corps étranger qui est refusé par une espèce de bonne nature. Et puis, il y en a qui n'arrivent pas à s'intégrer, mais c'est très rare. C'est vraiment beaucoup de connivence entre les gens et d'affection, en fait.
Vous avez parlé de la rue du jour. Je sais que vous êtes lié aussi à la rue Dieu. Je me demandais ce que les noms de rue vous procuraient comme émotion.
Ben c'est curieux parce que il y a et maintenant la FAB c'est place Jean-Michel Basquiat alors que je savais pas du tout que ça serait ça l'adresse, ça s'est fait comme ça et je suis dans le 13e et que voilà place Jean-Michel Basquiat que j'avais rencontré là encore une rencontre
magique.
C'était j'avais déjà acheté un autoportrait de lui, un dessin en 83 je crois qui est encore chez moi, qui est là exposé d'ailleurs à la FAB. Et après, il me rencontre dernier vernissage chez Yvon Lambert au mois de février. Et il y avait un dîner chez Castelbajac après, auquel, en fait, on a oublié d'aller, puisqu'il s'est mis à me parler à la pizzeria en face de chez Yvon Lambert. Et on a parlé 2 heures, on s'est entendu comme trop bien.
Après, il m'appelait la nuit pour que j'aille au crayon, pendant les deux nuits suivantes, tout ça, à 4h du matin, je ne me voyais pas aller là-bas. C'était une rencontre magique, parce qu'on s'était vraiment entendu, il me racontait des souvenirs d'enfance, et les artistes souvent. Et l'enfance, c'est quelque chose qui c'est l'humus, c'est le fondement de tout, quoi. Il y a,
ouais.
Et au bout d'une demi-heure, il me parle de son enfance, on ne se connaissait pas. Warhol lui offrait des chemises à Agnès B. pour son anniversaire, comme ça qu'il me connaissait. « So that's you ». Il m'a vu chez Yvon. Il était magnifique. Hein.
Vous retenez les noms de rue ?
Les noms de rue, non. Oui, la rue du Hasard à Versailles. Et ça s'écrit avec un Z. C'est joli, hein. C'est tout près de la cathédrale. Rue du Hasard. Et j'écris toujours Hasard avec un Z. On me dit, mais non, c'est pas un Z. Je dis, mais si. Moi,
comme la rue.
Comme la rue. Oui.
Vous avez encore un carnet d'adresses, vous ?
Ben, je suis pas du tout organisée, moi.
Ah bon ?
Non.
C'est vrai ?
Ah, j'ai les numéros chéris dans mon téléphone, voilà. Oui. Puis on n'en voit plus tellement de cartes postales.
Non.
C'est dommage. Non. Je fais un peu, mais pas assez.
Donc vous non plus, vous n'en envoyez
pas
plus.
Pas assez.
Parce que j'ai remarqué qu'on espère que l'on nous envoie encore des cartes postales, mais nous, on a arrêté d'en envoyer. Donc, généralement, c'est quand même un peu donnant-donnant.
Ah, c'est mon ami André Magnin qui envoie des très belles cartes postales. Il choisit les timbres, il met un trompeau, un dessin, machin. Je les garde, ces cartes postales.
Et vous aimiez en écrire, vous ?
Bah, quelquefois, oui.
Non,
mais je fais toujours beaucoup de choses, moi. Je sais pas. Je me pose pas beaucoup, en fait.
Vous créez aussi dans le mouvement ?
Ah oui. Oui, oui. Ben oui, puisque je prends des photos, après je fais des robes avec les photos. Ah, la création, c'est tout le temps. C'est tout le temps ou pas. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps, oui.
Et vous associez, parce qu'effectivement, vous prenez énormément de photos. On dit de vous que vous êtes toujours avec votre téléphone en train de photographier
ouais,
à peu près
tout. Oui, parce que ça me sert après. Après, on a un t-shirt avec une photo et ça fait 10 ans que je fais ça et c'est très peu fait, je trouve. Tant mieux. On n'a pas encore copié trop ça. C'est très bien. Donc je continue à faire tout le temps. Il y a une japonaise qui a tout ce que j'ai fait avec des photos dans sa garde-robe.
Ah oui ?
Elle ne veut pas en manquer un truc avec une photo faite par moi.
C'est une des japonaises qui vous saute dessus pour vous embrasser ou...
Ça doit être ça. Je ne sais pas. C'est possible. On m'a dit ça, qu'elle avait tout.
Ah oui ?
Oui.
Mais vous avez tout ?
Ben moi, c'est pendant le confinement, je me suis amusée avec ma garde-robe à habiller deux personnes peintes par Claire Tabouret, une jeune fille brune et une jeune fille blonde, avec le regard hors champ. Et je leur ai mis mes robes par terre, je les ai habillées chacune, j'ai fait, 40 photos différentes des deux filles, en leur faisant des looks à plat par terre. Comme si j'avais rencontré... J'en ai vu passer des jeunes filles en faisant mon travail, vous imaginez, des garçons aussi. Hein. Voilà, c'est un bonheur, il y aura toujours des jeunes filles, il n'y a rien de plus beau qu'une jeune fille, je trouve. Ou qu'un beau garçon, un jeune garçon, en tout cas. Et c'est tellement beau, là, ça m'a amusé d'avoir deux personnages rêvés, inventés par Claire. Claire Tabouret, qui est une peintre que j'étais la première à montrer, d'ailleurs, qui a maintenant beaucoup de succès. Elle est très jeune, c'était il y a 6 ans que j'avais acheté ses peintures. Et donc, je les ai habillées, j'ai fait ça, et on va faire un petit album pour elle et moi, ou après, on verra ce qu'on en fera. Mais ça l'amuse beaucoup que je fasse ça, elle m'a dit.
Et quand vous prenez une photo... Vous cherchez quelque chose ou ça vient à vous? Là, vous vous dites, vous regardez un cadre et vous vous dites, c'est ça que je
prends. Ce qui compte, c'est le cadre. Ce qui compte, c'est déjà voir ce qui vous saute aux yeux et cadrer. Le cadrage, c'est ce qu'il y a de plus important.
Comment on cadre en SB?
Il faut arriver à l'harmonie. De toute façon, il faut toujours chercher l'harmonie en toute chose, d'après moi. Mais dans le cadre, il faut trouver l'harmonie. Il faut trouver les lignes, ce qui va faire que la photo existe, quoi. Qu'elle tient, disons. Qu'elle tient, hein, qu'elle tient. Mais je ne me prends pas pour une photographe non plus.
Non.
Non.
Mais vous continuez à vous laisser surprendre.
Mais toujours. Qu'est-ce qu'on fait là sinon?
C'est vrai.
J'adore.
Et vous travaillez cette curiosité, ce rapport à l'inconnu, ou est-ce qu'il vous est spontané?
Moi, je travaille
et en permanence
pas.
Spontané.
Ah ouais. Je ne travaille pas beaucoup. Je dirais que je fais très peu de choses qui sont du travail. Comme du travail. Qui vous emmerde quand vous êtes petit, quoi. Les mathématiques, dans mon cas, par exemple.
Oui. Donc sinon, donc vous ne faites pas les comptes.
Non. Non. Heureusement, je suis. Si j'ai un bon sens paysan, mais grosso modo, mais les comptes et tout ça, les listes de comptes, hein, De toute façon, quand ça marche moins bien, on me le dit. Quand ça marche mieux, on me le dit aussi. Donc c'est quand même...
Oui. Et alors du coup, je vous ai coupé. Vous disiez que cette curiosité, elle venait à vous ou vous la travaillez? Non, vous ne travaillez pas, c'est ça que vous me disiez.
Pas vraiment, non. C'est vrai.
C'est rigolo parce que les gens de vous disent plutôt que vous êtes une travailleuse hyperactive,
acharnée. Oui, mais je sais pas. C'est-à-dire que je m'ennuie jamais et que je suis avec une équipe que j'aime beaucoup. On est là, c'est du travail, mais... La création, c'est aussi laisser l'imaginaire s'envoler. Alors ça, on peut s'envoler facilement. Hein. Il suffit que deux trucs tombent l'un sur l'autre, que ce soit deux couleurs qui aillent ensemble, et ça me donne l'idée de faire un t-shirt avec les manches vertes et le corps rouge. Ou... Voilà, c'est tout le temps. Faut avoir le fait aux aguets plutôt que du travail. C'est plutôt ça.
Donc vous vous promenez
attraper
beaucoup.
Les idées au vol.
Vous vous promenez beaucoup pour
Moi, je me promène
vous
pas
nourrir.
Assez, non.
Non, pas assez.
Mais même d'aller au marché, j'aime bien. Le dimanche matin, tout ça, j'aime bien.
Un lieu comme
genre-là.
Ici, un lieu comme... ici, c'est trop confiné, studio
oui.
de radio.
J'aime beaucoup aller à la fenêtre, oui, aussi.
Oui. Là, il y en a une, on a de la chance, on a un studio avec une fenêtre. Ah, enfin, oui. On voit pas... Oh, c'est derrière vous, c'est dommage. Je vous ai mal placée dans ce studio.
J'ai, je suis très contente.
J'ai lu de vous que vous aimiez les regards hors champ, les regards intérieurs, les bords de route, la fugacité. Je trouve ça très joli. Mm-hmm. Comme la fugacité de cet instant, cette heure que l'on passe ensemble, cette rencontre que vous nous offrez, Agnès B. Vous êtes notre invitée jusqu'à 15h sur France Inter.
Bien que c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. J'ai jamais su bien lire les astres du futur, alors je te dis ces choses, ce mot dont je suis sûr. Mon amour, tes coups d'éclat, tes quelques coups de clé ont pu me desserrer, enfin libérer le clair. Être ok avec ce que je ressens, avec ce que tu es. J'suis tout le temps intéressé par les choses que tu me fais. Genre, l'hiver à l'envers. C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi? Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi? Est-ce qu'on sera team divorce ou pas? Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi? Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras? Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha? Et faire encore une fois l'été à l'endroit. C'est l'amour, en tout cas ça me semble.
C'était Terre Noire sur France Inter. Mon âme sera vraiment belle pour toi dans ce Chacun sa route avec Agnès B. Un peu après 14h30, vous commencez à en avoir l'habitude. Nous vous proposons, à vous qui nous écoutez, de raconter votre ailleurs, un moment en voyage, un moment qui vous a transformé. Racontez-nous le répondeur 01 56 40 68 68, mon compte sur Twitter, HelloFond, ou mon mail elodie.fond@radiofrance.com. Et aujourd'hui, Agnès B, c'est Nicolas qui nous raconte un road trip en Mauritanie. On y va.
À Paris-Dakar, c'est une idée qui me traversait la tête depuis longtemps, mais pas du tout dans l'esprit 4x4 et course. C'est important pour moi de relier physiquement ces lieux. On a l'impression, quand on part en Afrique, qu'on part à l'autre bout du monde, que c'est loin, on prend l'avion. J'avais envie de me dire, c'est une petite terre, c'est un petit monde, et ils sont là juste à côté. C'est nos voisins, quoi. Quand on roule vers la Mauritanie, c'est que déjà dans un premier temps, on traverse tout le Maroc. On passe les contreforts du Rif, là, vers Tafraout, tout ça, en dessous d'Agadir. C'est très joli, j'y suis resté quelques jours, et puis on reprend la route Et là, on descend tout le Sahara occidental. Alors, le Maroc, on ne se rend pas compte trop sur une carte, mais c'est super long. Ça doit faire plus de 2000 bornes de longueur du nord au sud. Et c'est une route qui devient de plus en plus désertique jusqu'à ce qu'on arrive à la frontière mauritanienne. Après un espèce de no man's land, parce que c'était une zone un peu tendue il y a quelques années. Alors on voit, ça devient de la piste même à un moment, il n'y a plus de route goudronnée pendant 4-5 km, il y a plein de carcasses de bagnoles qui gisent de manière éparse ici et là, à droite à gauche. Il ne faut pas s'écarter de la piste parce qu'il paraît que c'est miné. Et puis on arrive au poste frontière Maroc-Mauritanie, on y passe une bonne demi-journée à faire divers papiers et à éviter de se faire un peu arnaquer, parce que c'est un peu les spécialités quand ils voient des blancs qu'ils connaissent pas trop. Si on paye la mauvaise taxe à la police au lieu de la douane, faut la repayer à la douane après. Bref, on traverse ce no man's land, et puis derrière on arrive, après encore quelques dizaines de kilomètres, à Nouadhibou, qui est la première ville mauritanienne. Alors il n'y a rien d'exceptionnel là-bas, mais on est sur l'océan, et puis c'est le désert qui tombe dans l'océan. C'est le début du Sahara qui tombe dans l'océan. Et juste en dessous de ça, sur plusieurs centaines de kilomètres, il y a une énorme réserve naturelle qui s'appelle le banc d'Arguin. Il paraît que c'est un estuaire d'un ancien fleuve qui a disparu depuis plusieurs milliers d'années et qui crée un espèce de bassin naturel avec des bancs de sable jusqu'à 50 km de la côte. C'est là-bas qu'il y a eu cette histoire du fameux radeau de la Méduse, avec ce bateau qui s'est échoué à 40 km des côtes mauritaniennes. C'est à peu près en face des Canaries, hein, pour situer géographiquement. Et donc on y arrive péniblement, après avoir menacé de s'ensabler un bon paquet de fois. La magie de l'océan, des oiseaux, plein d'oiseaux migrateurs, des hordes de pélicans, et c'est vraiment fabuleux. Il y a des gens qui vivent là-bas comme ils vivraient dans le désert, sauf qu'il y a l'océan juste à côté, dans un dénuement assez incroyable, mais qui sont extrêmement hospitaliers, la main sur le cœur, toujours prêts à l'échange, à discuter, à prendre le temps, à boire plein de thé, toujours trois au minimum, hein, c'est comme ça là-bas. Et c'est ça que j'aime quand on se retrouve dans ces lieux-là en Afrique, c'est que on retrouve la place de l'autre. C'est pas comme à Paris où le voisin en quelque sorte c'est un concurrent, ou la personne dans le métro c'est celle qui va prendre notre place assise. Non, l'autre, c'est tout, sinon il n'y a rien.
Agnès B., je vous voyais opiner du chef.
Ah oui, c'était bien ce voyage-là, c'était intéressant ce qu'il racontait, oui. Très bien, au Maroc.
Et vous êtes très attachée.
Au Maroc,
attachée,
moi j'étais dromadaire.
C'est vrai?
Oui, j'étais allée camper dans le désert au nord de Ouarzazate, là, à Skoura, on était partis sur des dromadaires campés dans le désert, c'était magnifique. Et dromadaires, comme j'ai fait beaucoup de voiles, et ben c'est très bien, c'est comme si on était sur un obicat à peu près, le dessus d'un dromadaire.
Ah oui, ça, vous comparez le dromadaire et la voile?
Oui. Sauf qu'il y a deux poignées pour quand le dromadaire descend une colline en sable, on a la tête très basse. On a deux poignées pour éviter de passer par-dessus sa tête, parce qu'il a la tête basse et nous, on a tendance à plonger aussi. Donc il y a ces deux poignées en cuir attachées à son licol. Et puis c'est super, c'est magnifique.
Est-ce qu'on peut avoir le mal de dromadaire comme on a le mal de mer?
Ah non, moi d'abord je ne connais pas le mal de mer, et ni le mal de dromadaire d'ailleurs non plus. Non, non, c'est magnifique.
Puisque vous nous parlez de voile, on reviendra au Maroc parce que j'ai envie que vous nous en parliez, mais puisque vous parlez de voile, on peut aller avec vous comme ça sur la mer, naviguer, parce que vous le faites depuis très jeune ça, d'aller sur la mer naviguer.
Oui, j'ai avec mon frère Bruno Troublé,
qui d'ailleurs est skipper. Il est peut-être retraité.
Champion olympique, même. Non, pas du tout. Il s'occupe toujours de voile.
Ah oui, ça n'existe pas la retraite chez vous.
Non, c'est pas. Non, mon frère,
apparemment non.
Non plus. Et on a commencé à faire de la voile tous les deux. Et là, il y a trois jours, il est venu à voile, là où j'étais en Bretagne, et il m'a mis la barre dans les mains. Et c'est comme savoir faire du vélo. On s'est barré comme on sait toujours faire du vélo. Parce que je n'avais pas barré depuis très longtemps, en fait.
Ah oui ?
Très, très longtemps. Parce que ma vie faisait que j'étais pas comme ça. On n'avait pas de bateau, je sais pas. J'avais lâché la voile.
Depuis combien de temps ?
Depuis que j'avais 17 ans, je crois. Et j'ai repris la barre, là. Il en revenait pas, moi non plus, d'ailleurs. Je vous dis, c'est comme savoir faire du vélo, ça se perd pas.
Et ça vous a procuré la même sensation ?
Ah oui, j'ai adoré. J'étais ravie. On a fait le tour de l'île en même pas une heure.
Et c'était racontez-nous super. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la sensation de la voile, c'est quoi?
C'est juste le vent, la mer, et voilà, il s'agite un peu, faut pas avoir peur, et on tire la barre à soi, on prend le vent, on serre le vent, on se met au vent arrière, ça s'appelle brasser carré, c'est ce que je dis quelquefois quand ça... Comment dire? Je dirais quand ça merdouille un peu, quelquefois, hein, dans la vie, dans le travail. Je veux dire, on brasse carré complètement. C'est quand on est au vent arrière et qu'à chaque fois, la baume, la barre qui sert à tenir la grand voile, risque de vous assommer. C'est au vent arrière, quelquefois, elle a tendance à virer la grand voile.
Vous avez gardé du vocabulaire.
Même... Ah oui, oui.
Même en
et cette famille, hein. Il y a Étienne Bourgois aussi, mon fils, évidemment, qui avec son projet Tara, là, notre projet Tara.
Exactement. Voilà, j'y allais.
Ouais,
oui. Tant mieux que vous nous y emmeniez, puisque on en parle souvent sur France Inter, et notamment dans les émissions scientifiques, mais pas que environnementales. Mm-hmm. Tara, c'est un bateau où il y a des scientifiques et qui font des expériences qui vont dans plusieurs endroits de la planète. C'est vraiment passionnant ce qu'ils font. Et alors, j'ai découvert effectivement en préparant cette émission, je ne savais pas que le bateau, non seulement vous appartient à vous et à votre fils, mais il s'appelle Tara parce que...
À cause d'autant n'importe le vent.
Voilà, racontez-nous.
Mes parents, ils sont retournés dans la maison de famille à Antibes après la guerre, et ils ont dit on retourne à Tara. Alors le premier bateau de mon père, qui était un peu plus grand comme cette table, s'appelait déjà Tara. Et là, c'est le Tara 7, en fait. À cause d'autant n'importe le vent, quand ils retournent à leur plantation, là. Ouais. Donc Tara... Et maintenant, il appartient à la Fondation Tara pour la recherche scientifique marine. Et voilà, on a aussi d'autres sponsors.
Plus.
Non, il est dans la Fondation Tara. J'ai donné ma part à la Fondation Tara.
D'accord.
Et maintenant, on a un peu d'autres sponsors aussi, heureusement, merci. Parce que j'étais presque le seul sponsor longtemps et ça coûtait très très cher. C'est ma contribution à l'écologie, c'est ce que j'ai toujours dit.
Ouais.
Donc, quand la mode fait appel à l'écologie des uns des autres, je dis, écoutez, ça fait longtemps que je m'occupe de ça et qu'on essaie d'être écolo dans la maison Agnès B, autant qu'on peut.
Oui, ça c'est sûr. Peut. On sait de vous que vous êtes de gauche et que vous avez des convictions que vous incarnez. Vous n'avez pas que des convictions. Vous les mettez...
Autant qu'on peut, oui.
En œuvre.
Oui.
C'est pas d'ailleurs, si souvent, hein.
D'ailleurs, j'ai sur moi, je suis très fidèle de nature, en fait. J'ai le badge de Angela Davis, Free Angela, que j'ai gardé depuis la manif à New York, vous voyez. Alors,
depuis quand?
En ce moment, je le remets, la manif à New York, dans les années 67.
Ah oui,
j'ai encore gardé ce badge. Donc en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec les Noirs, avec ce qui s'est passé aux États-Unis d'horrible, je suis très fière de porter à nouveau ce badge.
Vous avez toujours été engagée?
Free Angela, oui, ouais. Toujours.
Toujours, ça fait partie de votre vie.
Même à New York, j'ai manifesté contre la guerre au Vietnam.
Vous savez
dans Central Park. On était coursés par la police montée. Dans Central Park, j'ai peur quand même.
J'imagine.
C'était contre la guerre du Vietnam, alors on se disait qu'on n'était pas à plaindre par rapport aux Vietnamiens, en fait.
J'adore l'idée quand même. Vous êtes engagé, vous nous racontez des manifestations, puis des manifestations historiques un peu partout sur la planète. Vous avez quand même une sacrée route, Agnès B.
Ben heureusement, j'adore. Je suis curieuse, je suis gourmande en fait, c'est ça.
Est-ce que votre route est celle d'Agnès B? Enfin, la marque, hein. C'est-à-dire que évidemment il y a vous. En même temps, j'imagine que vous, dans l'intimité, comme B, c'était le nom de famille de votre premier mari, ça remonte un peu. Bon, j'imagine que les gens ne vous appellent pas Agnès B dans l'intimité, mais entre la marque Agnès B et vous, là, qui êtes en face de moi, est-ce que vous avez toujours eu une route parallèle ou est-ce que parfois vous n'étiez pas raccord avec la marque?
Oh, ben, j'ai toujours été raccord avec la marque puisque j'ai toujours tout dessiné moi-même. Et que ça continue. Je continue à dessiner moi-même. Je peux pas mettre mon nom si j'ai pas dessiné moi le truc. Alors, je peux pas avoir de studio. Et d'ailleurs, pour l'instant, ça va. J'espère bien, un de ces quatre, faire des rencontres, encore une fois. Je crois aux rencontres. Pour mais après moi.
Vous auriez pu être en décalage, parfois, avec l'envie de créer, avec... oui, ce que vous faites en tant que professionnel, parfois... D'une manière personnelle, vous auriez pu être en décalage.
Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non.
J'adore. La chance. Vous avez une sacrée
mais
vie.
J'ai la chance de faire quelque chose que j'adore.
Avec vous-même, quoi.
Oui, la chance de faire un métier que j'adore. On fait bien sur tous les métiers qu'on aime. Vous aussi, vous avez l'air de bien aimer votre métier, je trouve.
Ouais, je l'aime bien. C'est vrai.
Ça se voit, ça s'entend. Et c'est beau.
C'est vrai que je l'aime bien. Je voudrais qu'on revienne au Maroc, qu'on a un peu laissé. On y va,
tiens. Sur mon dromadaire.
Allez, allons sur votre dromadaire. Mais pas que, parce que vous êtes allé dans plein d'endroits au Maroc. C'est vraiment un pays, vous y êtes très attaché. J'ai lu que c'était le seul pays où vous vous dites, si j'avais pas habité en France, j'aurais pu habiter là.
Ah oui, c'est une cabane sur la plage, hein. pas un palais à Marrakech.
Non.
Sûrement pas, non.
Non, je vous imaginais pas très bien dans un palais à Marrakech. Pourquoi cet attachement? Qu'est-ce qu'il a de ce pays-là?
La bonté des gens, la gentillesse, le partage, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Des gens qui n'ont rien et qui vous offrent un thé. Vraiment, ce sont des gens merveilleux, les Marocains. Moi, je suis un peu marocaine de cœur, en tout cas. Oui.
Vous dites vraiment. Les Marocains?
Et puis ils font de la musique, je sais pas, n'importe où. Tout d'un coup, il y a le boulanger, le coiffeur qui vient avec un instrument, ils se mettent à faire de la musique. J'étais chez les Gnawa aussi. J'ai fait plein de trucs au Maroc. J'ai adoré prendre le bus. Un jour, j'ai sauvé un taxi. Heureusement que j'étais assis à côté du chauffeur parce que la voiture est partie épicée, je crois. Et la voiture a commencé à rouler vers le ravin. Et heureusement, j'ai serré le frein à main. Il y avait derrière un bébé, une vieille dame, la maman.
Et vous?
Et moi? Et bon, bah sinon, on était dans le ravin, si j'avais pas été assis à côté de lui. Donc j'ai fait du train, du bus, plein de choses. Puis je veux jamais avoir une maison au Maroc, parce que j'aime mieux aller dans des endroits que je connais pas.
Oui.
Encore. La vallée des Roses.
En même temps, j'ai lu que vous retourniez souvent à Antibes, par exemple, où vous avez une maison familiale.
Une maison, donc je m'occupe, la famille vient dans la maison, tout ça, voilà.
Oui. Vous avez une grande famille. Vous avez une grande, grande famille, Agnès B. Vous avez eu beaucoup d'enfants, alors évidemment.
Oui.
Évidemment, après, ça fait une grande famille.
Oui. Mais je ne vais pas me plaindre.
Non. Agnès B., vous restez avec nous sur France Inter. On a le plaisir de passer cette heure en votre compagnie jusqu'à 15h. C'est la bande-son de la série The Eddie sur Netflix. Georgia Smith, Kiss Me in the Morning sur France Inter. C'est vrai que c'est agréable.
When you kiss me in the morning, then you should call me. Late at night, I never tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving, it never stays away from right. So if you kiss me in the morning, oh, you better close the night, and I wake up with this feeling in my body.
Agnès B est notre invitée dans Chacun sa route jusqu'à 15h sur France Inter. Elle nous fait le plaisir de nous raconter son voyage, ses voyages, sa route depuis un petit moment. Votre marque, elle aura 50 ans dans quelques années. Mm-hmm. Vous l'avez fait voyager à travers les âges, à travers les époques. Vous étiez une défenseure du Made in France bien avant que ce ne soit populaire. Comment vous diriez, avec le recul, comment vous l'avez fait justement voyager à travers les âges, cette marque ?
Mais je pense que mon travail, c'est d'anticiper les choses. Je travaille toujours, là en ce moment, je fais la collection été 21. On la présente fin septembre. Donc je suis toujours tirée vers le futur. Ça va avec ma nature aussi. Donc moi, je continue et voilà.
Et comment on crée dans
la
le futur
c'est
alors
quoi la question.
Non, la question moi, c'était toujours comment rester finalement là quoi. Comment
Je me fiche des tendances, donc je fais comme j'ai envie. Je regarde jamais un cahier de tendance, je regarde jamais ce que font les autres. Et comme ça, je me sens libre de faire des vêtements pour les gens autour de moi. Ça, ça lui irait bien à lui. Ça, c'est, ça serait joli. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est voilà. Ça se fait tout seul.
Oui.
Presque.
Presque, oui. C'est peut-être pas aussi facile que ça, quand même.
Non, mais j'ai pas de problème de création. Et puis, j'ai une équipe que j'adore et qui met les choses en œuvre. Et on travaille en amont, on fait les tissus, on choisit les tissus, on fait faire les tissus. Ouais. Et puis, je pense que ma vision, c'est quand même le respect des gens avec qui je travaille, des gens pour qui je travaille. C'est respect. On est en train de l'écrire sur les boutiques en ce moment, parce que avec le c'est un mot qui est important à pas oublier. Et ce qui est beau, c'est de voir des jeunes s'emparer de ce mot. En ce moment, respect, sur les signes et tout. Eh ben oui, allez-y pour le respect. Plus que ça même, si possible. Et même les autres.
Vous êtes enthousiaste de voir cette jeunesse se soulever pour l'environnement, pour les femmes.
Mais bien sûr, tout à fait, bien sûr.
Ouais.
Surtout que moi, en tant que femme, en tant qu'adolescente, j'ai pas eu une adolescence très facile. J'ai fait un film même. À cause de ça.
C'était en 2014.
2014, et il était à Venise, au Festival de Venise, et j'étais très, et à Abu Dhabi, où j'ai eu un prix pour la protection de l'enfance.
Il s'appelle Je m'appelle.
C'est une petite fille qui est abusée chez elle et qui se sauve au cours d'une classe de nature, et qui, au contraire, est recueillie par Douglas Gordon, un camionneur anglais, qui est Douglas Gordon, l'artiste. Qui est le chauffeur et avec qui lui redonne une enfance pure.
Et effectivement, au vous êtes inspiré de votre propre histoire, puisque
de
vous-même
ma propre histoire où c'était pas mon père, j'avais trop, un oncle qui m'aimait trop.
Oui, c'est comme ça que vous dites,
ouais.
qui m'aimait trop.
Oui.
Ça, pour le coup, les jeunes femmes qui militent, je ne sais pas si elles utiliseraient ce terme de m'aimait trop.
Ben ça voulait dire, c'est on est sous influence, on est sous une emprise, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des gens qui vous apprennent des choses, qui vous font lire des livres, ça dépend. Vous voyez, on ne comprend pas. Surtout si votre mère s'en fiche complètement.
Votre histoire personnelle, vous l'aviez utilisée déjà pour créer en amont ?
Non, pas du tout. Mais par contre, ce que j'avais fait, c'est des films, des courts-métrages avec mes vêtements dans des histoires. Maintenant, on parle de ça, que la grande mode, comment on appelle ça ? La haute mode, la couture, on va se mettre à faire des films au lieu de faire des défilés à cause du Covid. Mais je faisais ça il y a 10 ans, 12 ans, je faisais des petits films et je présentais les films et mes vêtements en situation, justement. C'est ça qui m'amuse de faire. Parce que moi, j'imagine un impair, tiens, je suis à l'aéroport, il faut que j'ai des poches là, j'ai ma valise, machin. J'imagine des gens en voyage, comment ils doivent être habillés, des costumes d'hommes qui se froissent pas du tout pour l'avion, tout ça. Bon. C'est dans la vie, je fais des vêtements pour dans la vie, donc je me projette comme ça, dans le futur, et avec des vêtements qui ne soient pas datés du tout, le moins possible.
Le moins possible, évidemment.
Ça, on les garde longtemps, ils sont toujours bien.
Et ils traversent les âges.
Là, j'ai ma combinaison, ça fait 40 ans que je l'ai créée.
Et 40 ans, vous l'avez celle-là ou
Non, celle-là, elle est rouge, j'en avais une blanche au départ, après j'en ai une noire, et puis ma belle-mère, Marie-Claire Mendès-France, avait toujours sa combinaison blanche l'été. La femme de Pierre, qui est quelqu'un que j'ai adoré, qui m'a appris beaucoup de choses, lui aussi, en discutant comme ça. J'ai écouté me raconter des histoires. Donc Marie-Claire Mendès-France avait toujours sa combinaison blanche, zip doré, impeccable, avec ses petits cheveux gris en arrière et son profil très fin. Voilà. Donc ça va, c'est pour des âges différents. En ce moment, les filles dans les boutiques, elles sont en combinaison avec leur masque. Elles ont l'air un peu martiales, comme ça, ça leur va très bien.
Justement, vous parlez de masque. Je ne sais pas si on l'entend dans le micro, mais vous jouez avec depuis tout à l'heure.
Oui,
vous êtes en train d'essayer d'imaginer le masque de demain.
J'en ai fait un et il y a un sourire dessus, mais on n'a pas encore l'homologation.
Ah, oui, parce que
là,
vous avez
trois couleurs de rouge à lèvres.
Je ne veux pas trahir, mais enfin, vous avez un masque là assez banal. Hein.
Ah, tout à fait banal. Oui. Le plus beau est au sale. Il est blanc avec des petites étoiles noires.
Ah, vous nous avez pas fait le plaisir de votre masque Agnès B.
Non. De ma fille Ariane qui me l'a fait.
Agnès B. Chaque jour, pour terminer chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice. C'est la même, toute cette semaine. On raconte la vie de Leslie Blanche. Et depuis le début de la semaine, on a raconté ses nombreux voyages, sa passion pour la Russie, pour Romain Gary aussi, avec qui elle s'est mariée, puis de qui elle a divorcé. On la retrouve justement aujourd'hui, juste après son divorce. Je vous raconte, Agnès B. Leslie Blanche repart alors sur les traces de son premier grand amour, celui qu'elle surnommait le voyageur, et repart sur les routes russes à travers les provinces de Transbaïkalie, les steppes mongoles, le désert de Gobi. J'aimais son milieu, tout ce qui l'avait entouré et formé, m'efforçant de pénétrer dans ce pays des limbes énigmatiques et éloignées, chez ces Slaves, où, me disais-je, mes racines s'enfouissaient dans un insondable passé. Il me semblait que je l'avais toujours connu et aimé. Je reviendrai enfin chez moi dans son univers. De ces périples russes naîtront voyages au cœur de l'esprit. Oui, Leslie Blanche a beaucoup voyagé dans sa vie. Pas assez aux Indes, dira-t-elle. Quelle toupet de dire que vous pouvez comprendre un pays alors que vous êtes là, de passage, même si vous restez 2-3 mois, vous commencez à peine. Certains pays comme la Turquie où j'étais souvent, et la Russie aussi. Je ne sais pas combien de voyages j'y ai fait, 6 ou 7, peut-être plus avec le Caucase. Là, on commence à comprendre un peu. De cette compréhension du monde qui se dessine, Leslie Blanche en tirera 11 livres, y compris une biographie remarquée de Pierre Loti, à un moment où il tombait un peu dans l'oubli. Avec Pierre Loti, ils avaient d'ailleurs plusieurs points communs, dont celui de parler aux animaux. Chez elle, d'ailleurs, il y avait toujours des animaux, et tout respirait l'ailleurs. Il flottait dans l'air une odeur de jasmin et de patchouli. Elle adorait les jardins, les porcelaines anglaises, les tapis perses, une baguette magique offerte par un chaman sibérien, la pièce ornée d'un portrait d'Élisabeth de Russie. Être vieux n'a aucun intérêt, il faut tirer sa révérence à 80 ans. Pourtant, Leslie Blanche tient bien au-delà de 80 ans. Elle en a 90, quand sa belle maison de Menton prend fin. Tout ou presque est détruit. Mortifiée, elle se bat auprès des assurances pour tout reconstruire avec une force inouïe. Mais ses livres, ses robes originales, ses bracelets en forme de serpent, ses chapeaux british, ses tableaux, ses écrits, 1000 détails et grandes œuvres ont disparu dans les flammes. Ce qui l'a caractérisée si bien, elle, si romanesque, fantaisiste et charismatique. Mais le feu ne la consume pas totalement, puisqu'elle vivra encore 13 ans derrière. Elle est décédée en 2007, à 103 ans. Avec sa disparition, c'est un monde qui disparaît aussi. Le vieux Istanbul, la ville de Londres, capitale du monde libre lors de la Seconde Guerre mondiale. L'Afghanistan qu'elle visite longuement bien avant la guerre. Leslie Blanche disait... Les Turcs ont un merveilleux au revoir. Gouley, disent-ils, part avec le sourire. Et toute l'histoire de Leslie Blanche, vous allez pouvoir la retrouver en podcast avec toutes les voix que vous avez entendues au fur et à mesure de cette semaine sur franceinter.fr samedi et dans le fil de podcast « Chacun sa route ». Agnès B, cette émission s'appelle Chacun sa route, comme la chanson. Chacun sa route, chacun son chemin. Quel message passer à votre voisin ?
À mon voisin ? À mon voisin, mais suis ta route surtout.
Suis ta route.
Fais-la toi ta route. À toi. Avec ce que tu aimes faire.
Sans présager de ce que pensent les autres ou...
Si on commence à penser trop aux autres, on ferait rien. Hein. Faut pas trop écouter les autres. Hein. Faut mieux s'écouter soi-même.
C'est vrai.
Ben, je crois, sauf quand ça vous amène à des bêtises. Non, sinon.
Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci. Moi, ça m'a fait très plaisir aussi.
Parfait.
Merci beaucoup.
Plaisir partagé.
France Inter.
Chacun sa route, épisode 29, revenez demain. Demain, on ira un peu plus près des étoiles. La nuit des étoiles nous tend les bras, alors on y va. Et puis, on suivra la route d'un jeune garçon qui a traversé de nombreux pays pour arriver jusqu'ici, en France. Merci à Vera Loudéride, Claire-Sophie Collet, Céline Dubois, Louise Cognard, Thomas Omaro qui ont préparé cette émission et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte tous les jours. Vous nous racontez un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Allison aujourd'hui, appelez le 01 56 40 68 68.
Le voyage, c'est des vacances entre copains à Barcelone. Et la musique, c'est 91 de PNL. Et 91 de PNL, c'est la musique de l'été, un petit peu légère. Et voilà, cette chanson m'emmène immédiatement sur des terrasses à Barcelone avec des bières, des amis. Voilà, c'est la chanson des vacances.
Je remplace VR par JR, je suis loin de Dallas. Je vois que l'esclavage.
Dans quelques minutes, Jean Morel prend le relais Haute Fidélité.